Mon point de départ, c'est ce que j'ai appelé l'extension du domaine de l'enquête. Même si on peut considérer que le noir est plutôt une thématique ou un registre, et l'enquête est plutôt une structure, une forme, la forme narrative sur laquelle le roman policier s'est historiquement constitué. Cette migration de l'enquête en dehors du roman policier et vers des récits au support varié a accompagné sa légitimation au fil du XXe siècle jusqu'à la suprématie éditoriale, puisqu'aujourd'hui un quart des romans publiés est noir ou policier. Alors j'envisage cette expansion ou extension de l'enquête comme une migration, comme une histoire de frontières à franchir. Et ce qui manifeste effectivement ce transfert, c'est la présence de plus en plus conséquente de récits d'enquête hors romans policiers, que ce soit sous la forme de romans, de témoignages, de biographies, voire d'essais. Par exemple, en 2013, Michel Audin avec « Une vie brève » et Philippe Artière avec « Vie et mort » de Paul Génie, deux ouvrages qui n'ont absolument rien à voir avec le roman policier ou le noir, ont cependant écrit un portrait dans une forme qui présente des similitudes, des proximités avec l'enquête. Les traces et les répercussions de ce passage de frontière s'observent tout particulièrement en deux lieux. D'une part, les marquages génériques, d'autre part, la scène finale. Il n'est pas étonnant en effet que le déplacement de l'enquête dans un autre genre provoque une certaine instabilité générique. Ce qui est plus intéressant, c'est la manière dont la solution positive énoncée dans la grande scène finale des romans d'énigmes est aussi mise en cause par ces romans ou ces récits d'enquête génériquement ambigus. Alors j'emploie le terme de récit d'enquête pour ne pas dire roman policier, pour ne pas dire roman, et pour pouvoir ainsi désigner toute forme narrative qui est construite sur une enquête et qui, indépendamment du support, que ce soit télévision, même si, en ce qui me concerne, je travaille plutôt sur la littérature. Telle est donc la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui arrive quand l'enquête passe les bornes ? Alors, nous allons examiner, pour commencer, les ambiguïtés génériques, puis la disparition de la solution, pour finir par une réflexion un peu théorique sur les liens entre ces passages de frontières, la critique et la transfictionnalité. Quatre récits d'enquête écrits en français. Tout d'abord, je vous les donne en ordre chronologique, Pierre Bayard, qui a tué Roger Ackroyd, paru chez Minuit en 1998. Ensuite, François Bon, Déhou, paru chez Fayard en 2004. Puis Philippe Douminc, contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary, chez Actes Sud en 2007. Et enfin, Antoine Bellot, enquête sur la disparition d'Émilie Brunet, chez Gallimard en 2010. Une dizaine d'années au tournant du siècle qui manifestent bien l'expansion de l'enquête hors des frontières du roman policier. Alors que ces quatre ouvrages ne sont pas publiés dans une collection policière, on pourrait cependant gloser sur les titres et la manière dont ils disent l'enquête et le noir, avec justement les termes d'enquête, de contre-enquête, les mots comme tuer, mort, disparition, et aussi la présence de Roger Ackroyd qui, tout le monde le sait, est un éminent personnage de roman policier. De quel type de texte s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'un essai critique. Avec Pierre Bayard, on a une enquête sur un roman, c'est-à-dire un texte critique où Bayard analyse la méthode d'enquête d'Hercule Poirot et disserte sur le délire d'interprétation, puis propose une autre solution à l'énigme du meurtre de Roger Ackroyd. On a ensuite deux romans qui sont très proches du roman d'énigme, celui de Douminc et celui de Bellot. Doumenc raconte l'enquête menée par un policier à la suite du décès de Madame Bovary. Il s'agit donc d'un développement et d'une prolongation du célèbre roman de Flaubert, prolongation qui va à l'encontre de son point de vue, ironique du point de vue de l'auteur initial, point de vue qui se trouve ironiquement placé en exergue du roman. Flaubert, dans sa correspondance avec George Sand, écrit « Mais naturellement, ma pauvre Bovary s'est bien empoisonnée elle-même. Tous ceux qui prétendront le contraire n'ont rien compris à son personnage. Comment ne pas se suicider si l'on a un peu d'âme et que le sort vous condamne à Yonville ?» C'est pas très loin d'ici. Donc, ça commence comme ça avec cette phrase de Flaubert, mais c'est une contre-enquête qui va évidemment prouver que Madame Bovary a bel et bien été assassinée. Antoine Bellot imagine un policier réputé, mais amnésique, qui cherche à coincer un mari soupçonné d'avoir fait disparaître sa jeune épouse infidèle. On est bien dans un schéma de roman policier. Le principal suspect est lui aussi amnésique, à la suite de son passage à tabac par la police. Et du coup, le roman, l'enquête, se transforme en un face-à-face entre deux amnésiques, ce qui crée entre eux une certaine proximité. Et les deux, on peut remarquer d'emblée que les deux personnages principaux, l'enquêteur et le principal suspect, comme dans un roman d'énigmes qui se respecte, seraient du côté du savoir, parce que ce sont les deux seuls à savoir ce qui s'est passé, eh bien là, du fait de leur amnésie, ils sont d'emblée placés du côté du non-savoir. Quatrième ouvrage de mon corpus, celui de François Bon, il s'agit d'un témoignage sur l'affaire des Houx. François Bon évoque les investigations qu'il a menées en Lorraine autour de l'affaire des Houx afin d'en rencontrer les victimes, c'est-à-dire les femmes qui ont été licenciées à la suite de la fermeture des trois usines au moment où des Houx, après avoir bénéficié de subsides publics, a mis la clé sous la porte et s'est enfui. Après avoir bénéficié de subsides publics et été décoré de la Légion d'honneur par M. Fillon. Cette enquête réelle, donc, a débouché sur une pièce de théâtre et le récit qui évoque à la fois l'enquête et cite des bribes de cette pièce constitue une mise en scène de l'écriture ainsi qu'une réflexion sur sa fonction sociale. Quelle est la position de ces textes par rapport au roman policier ? Chez Bon, il n'y a aucune référence, mais on a quand même une enquête, des témoins et des documents. On est plutôt dans le modèle zolien de l'enquêteur sur le terrain, et le résultat est l'œuvre, c'est-à-dire à la fois la pièce de théâtre et puis finalement ce court texte qui est un résultat imprévu, une sorte de supplément d'écriture. Le jeu, alors pour ce qui est des relations de Doumenc avec le roman policier, son jeu transfictionnel tire vers le roman policier un texte qui manifestement ne l'est pas. En ce qui concerne Bayard et Bellot, ils écrivent par rapport à une œuvre emblématique du roman policier, c'est-à-dire du roman policier d'énigmes, c'est-à-dire celle d'Agatha Christie, tous deux commencent, à la manière de Dame Agatha, par une liste de personnages. Aucun de ces textes, aucun de ces quatre textes, ne se place, comme le fait Echenoz par exemple, dans une relation parodique avec le mauvais genre, mais chacun est très exactement un récit d'enquête. Ajoutons une dernière caractéristique importante, dans les quatre textes, on a des enquêteurs qui écrivent, ce qui accentue la métanarrativité naturelle de l'enquête. François Bon est l'auteur, il occupe des positions de narrateur et d'enquêteur, et il est écrivain. Pierre Bayard en tant que critique, est un lecteur qui écrit. Dans le récit de Douminck, l'enquêteur principal, qui est un personnage fictif, qui est appelé Remy, n'est pas narrateur, mais plusieurs chapitres reproduisent ses notes, les notes qu'il a prises durant son enquête. Et la question de l'écriture est aussi présente dans le roman à travers le personnage de Flaubert qui assiste aux obsèques de Madame Bovary. Antoine Bellot a imaginé un personnage d'enquêteur écrivant son journal, ce qui est pour lui sa manière de compenser son amnésie entérograde, c'est-à-dire qu'il oublie en dormant ce qu'il a fait la veille. C'est donc le texte qui rend l'enquête possible, puisque chaque matin il doit relire ce qu'il a écrit pour se souvenir de l'avancée de son enquête. Donc la continuité du monde est assurée par le texte. C'est le texte qui est la trace de l'enquête. Là, on a le début d'une inversion importante. Et c'est un texte qui nous est livré avec rature. Certains passages sont biffés. Et avec censure, puisque vous avez certains passages du texte qui sont raturés de telle sorte que vous ne puissiez absolument pas lire ce qui est écrit. Et à la fin du roman, l'enquêteur prend son cahier et le range dans sa bibliothèque à côté des romans d'Agatha Christie. Alors passons maintenant à la question des ambiguïtés génériques. Alors, les ambiguïtés génériques apparaissent essentiellement en marge du récit, par exemple dans les choix éditoriaux. Si on compare les différentes éditions de Bayard, autant l'édition initiale dans la collection Paradoxe, par sa sobriété, connote le sérieux, donc l'essai, autant la publication dans la collection de Poche de Minuit est plus ambiguë puisqu'elle juxtapose les deux intitulés, l'intitulé de Bayard et l'intitulé du texte d'Agatha Christie, donnant l'impression qu'il s'agit de deux textes qui ont le même objet, c'est-à-dire le meurtre de Roger Ackroyd, alors qu'en fait, le roman d'Agatha Christie est l'objet de l'essai de Bayard. Donc on a déjà une certaine instabilité dans les hiérarchies. Ajoutons que sur la quatrième de couverture, qui est identique dans les deux versions, l'ouvrage est présenté à la fois comme un essai et comme, je cite, « un roman policier sur un roman policier », donc une sorte de roman policier au carré. Donc très roman, roman au carré, ça devient essai. On trouve un jeu du même ordre, même type d'ambiguïté chez Bellot, mais de manière un tout petit peu plus ingénieuse ou perverse, comme vous voulez. La jaquette de Bellot fait appel à notre goût du noir. Le problème, c'est que si vous enlevez la jaquette, vous trouvez ça. C'est-à-dire la collection blanche de Gallimard. Je vous rappelle que Antoine Bellot est aussi l'auteur des falsificateurs, c'est-à-dire l'histoire d'une société secrète dont la mission est de falsifier le réel. Chez François Bon, il ne s'agit plus de politique éditoriale, mais bien d'un choix de l'auteur, puisque Des Houx porte le sous-titre « roman », ce que l'auteur commente la deuxième ligne du texte. Pourquoi appeler « roman » un livre quand on voudrait qu'il émane de cette présence si étonnante, parfois, de toute chose. François Bon est un écrivain qui refuse de construire des romans avec intrigue, péripéties, narrateur omniscient. Il est proche de Pérec par l'idée que l'obéissance au réel peut devenir productive. Il explique avoir mis roman par provocation pour ne pas être classé en documentaire ou sociologie. Mais on peut aussi entendre ce sous-titre comme la trace de son emprunt. De toute façon, il s'est senti obligé de l'écrire, roman. Sous Madame Bovary, ce n'est pas écrit roman. Enfin, l'ambivalence générique est l'occasion d'un discours ludique dans les paratextes autographes où se construit le contrat de lecture. La postface de Douminck compare les deux interprétations de la mort de Madame Bovary, celle de Remy, présentée comme un compte-rendu fidèle, et celle de Flaubert, à laquelle on reproche de n'être qu'une affabulation, proche de l'escroquerie. La version policière, celle de Douminck, se prétend aussi antérieure au roman de Flaubert, et ce double mensonge, ce n'est pas une fiction, et ça a été écrit avant Madame Bovary, ce double mensonge souligne le jeu transfictionnel et institue le flottement générique. De même, dans le prologue de Bayard, apparaît la liste des personnages du roman d'Agatha Christie, présentée souvent, comme chez Agatha Christie, à la manière d'une pièce de théâtre. Sauf qu'on n'est pas dans le roman d'Agatha Christie, on n'est pas dans un roman, on est dans un essai, et on n'est pas dans au début du texte d'Agatha Christie, on est au début d'un texte de Pierre Bayard. On peut donc hésiter quant au texte qui va suivre cette liste de personnages. S'agit-il d'un roman? S'agit-il d'un essai? Le prologue adopte pour commencer une position critique claire, puisqu'il évoque le roman d'Agatha Christie comme un livre dont il va parler. Mais il déstabilise assez rapidement la limite entre texte et métatexte, et ceci en deux temps. Bayard se rapproche tout d'abord de Poirot, en soulignant qu'il adopte la même démarche que le détective et risque, comme lui, de se laisser aller à une interprétation délirante. Ensuite, la métalepse se fait plus franche. Qui s'est jamais interrogé sérieusement, par exemple, sur les étranges épidémies de décès qui frappent les héros des fables de La Fontaine? Est-on si assuré que la dame aux camélias soit morte de mort naturelle? Est-il exclu que Madame Bovary ait été assassinée? Et que sait-on au juste du décès de Bergotte? Avec l'expression « reprendre des dossiers douteux », s'ébauche le projet d'une critique policière à la lisière de la critique et de la transfictionnalité sur lesquelles on reviendra. Ainsi, en dépassant les limites du roman policier, la forme enquête se joue aussi de celle qui sépare roman et essai, réalité et fiction. Deuxième point, deuxième conséquence de l'expansion de l'enquête, la disparition de la solution ou, j'ai pas osé, la solution de la solution. En tant que conclusion de l'enquête et triomphe de l'enquêteur, la scène finale occupe des fonctions de marquage générique du roman policier d'énigmes, dont elle finit par constituer l'emblème positif. À ce titre, elle participe de la clôture paralittéraire, de la clôture du texte et de la clôture du sens. On en saisit bien le fonctionnement si on s'appuie sur la structuration du roman policier proposé par Bayard, plutôt que sur la double histoire de Todorov. Pour Bayard, l'enquête connaît deux temps. Un premier temps de fragmentation et d'ouverture des possibles narratifs. Puis, un moment de réunification par le récit final, donc cette fameuse scène finale, qui est un temps de fermeture et d'unicité du sens. Cette vision en deux temps, ouverture-fermeture, suppose la réduplication de l'enquête et de l'énigme, qui sont racontées deux fois chacune. La première fois, énoncé de l'énigme, déroulement de l'enquête, le lecteur ne comprend rien et tout le plaisir vient de là. Deuxième fois, dans la scène finale, on a une reprise de l'enquête, c'est l'explication, et une reformulation de l'énigme, c'est la solution. Et là, le lecteur comprend tout et le plaisir vient de la théâtralisation de cette mise en forme, de l'exhibition de la forme cohérence du récit. Ce schéma est bien évidemment susceptible de multiples variations. Dans le récit d'enquête, la scène finale marque en outre l'accomplissement du détective lecteur en auteur, ce qui en fait un lieu où s'exprime l'autorité, dans les deux sens du terme. On comprend donc son intérêt stratégique. Elle est le lieu de clôture où s'explicitent les enjeux épistémologiques et métanarratifs du roman policier. Les quatre textes de mon corpus la remettent en cause en contestant sa valeur de vérité, en l'affaiblissant jusqu'à la faire disparaître ou encore en la renforçant. On a donc simultanément contestation et construction de la scène finale. Doumainc et Bayard rejettent la vérité d'une autre scène finale par rapport à laquelle ils écrivent, celle de Flaubert ou celle d'Agatha Christie, et proposent une autre explication, une autre solution. On peut donc parler d'orthodoxie structurelle, puisque la scène finale est là, avec transformation de la diégèse, puisqu'elle dit autre chose. Sauf que Bayard écrit un essai, et non un roman policier, tandis que Doumainc, dans une logique transfictionnelle, reprend le matériau diégétique pour écrire à peu près le contraire du récit initial. François Bon utilise la structure narrative de l'enquête pour elle-même. C'est la rencontre avec les victimes qui lui importe et son résultat est déjà inclus dans le texte puisqu'il s'agit de la pièce de théâtre. Il refuse explicitement la scène finale avec les dernières phrases du roman. Je cite « Et laisser toute question ouverte, ne rien présenter que l'enquête ». Ce désir d'ouverture correspond exactement à la proposition que faisait Alain Robbe-Grillet dans le littérature des années 80 consacré aux romans policiers. Alain Robbe-Grillet proposait d'imaginer des romans policiers sans scène finale. Et François Bon est exactement dans la même logique. Bello renforce la théâtralité de la scène finale en la situant au moment du procès. Le suspect est devenu l'accusé et l'enquêteur est cité comme témoin. Sauf que le suspect a choisi de se défendre lui-même. Donc c'est lui qui interroge le témoin, c'est-à-dire l'enquêteur. Donc on se retrouve dans une scène finale où c'est le suspect qui tient le micro, si je puis dire, et qui interroge l'enquêteur en position de témoin, ce qui est exactement l'inverse du modèle canonique où c'est Hercule Poirot qui parle à l'assemblée des témoins réunis. Je vous rappelle que l'enquêteur en question est amnésique, donc c'est le matin, il a tout oublié, et le suspect, en l'interrogeant, l'amène à formuler progressivement la ou une vérité, donc à dire la solution de l'énigme, c'est-à-dire à avouer en quelque sorte. Plusieurs solutions sont en fait proposées, c'est pour ça que j'ai hésité à dire la vérité, plusieurs solutions sont proposées, on reste dans l'indécidable, dans l'invérifiable, ce qui montre que de mes quatre exemples, la scène finale la plus caractérisée, dont les traits caractéristiques sont soulignés, renforcés, est celle qui laisse l'enquête en suspens, donc où la scène finale bien caractérisée ne remplit finalement pas son rôle. Chacun à sa manière, en jouant avec la fin, les quatre textes s'approchent de l'indécidable. François Bon, en rejetant l'idée même d'une explication finale, affirme qu'il n'y a littérature que par le secret tenu. Avec Doumainc et Bayard, coexistent désormais deux fins pour la même histoire, deux solutions pour la même énigme, même si elles ont été imaginées par deux auteurs différents, à des époques et dans des genres différents. Et l'enquêteur de Bello est dans l'incapacité d'étayer ses multiples hypothèses, et la décision qui clôt l'enquête, c'est justement ce geste de ranger son journal dans la bibliothèque, celle-là même où sont alignés ses Agatha Christie et qui lui est tombée sur la tête, provoquant son amnésie. Rappelons qu'avec Modiano, nous avions en 2007 observé des faits similaires et observé comment l'abandon de la fin constitue une marque de littérarité, comme si l'irrésolu, l'incertain, étaient des valeurs littéraires. Cet usage de l'enquête en fait une dynamique susceptible de dire l'indicible, de produire de l'indécidable, loin du positivisme triomphant des premiers romans d'énigmes. Je voudrais maintenant poser une dernière question. Où est le monde quand l'enquête passe les bornes? On sait que le roman policier s'est fondé sur l'équivalence établie par le regard du détective entre le monde, le corps et le texte, tous éminemment déchiffrables et interprétables. Le détective ne se contente pas de lire le monde comme un texte, il dit la vérité sous la forme d'un récit, il est à la fois lecteur et auteur, c'est-à-dire proche du critique. En outre, des liens d'intertextualité se créent qui se jouent de la limite entre monde et texte. Dans tout roman policier qui se respecte, il y a un moment où on fait référence aux autres romans policiers et où on dit « mais nous, on n'est pas dans un roman policier ». Et dans les exemples que je suis en train de vous présenter, Douminck répond à la question posée par Bayer « est-il possible que Madame Bovary ait été assassinée ?» Un personnage de Bello reprend les attaques de Bayard contre Hercule Poirot. La métanarrativité et les jeux métaleptiques qu'elle favorise questionnent l'univers de référence. Et la dernière frontière que l'on fait ainsi bouger, après les frontières génériques, après celles de la scène finale, c'est la frontière qui sépare le monde et le texte. Déstabiliser la clôture du texte, c'est donc une conséquence de l'expansion de l'enquête, mais aussi le principe de la transfictionnalité. Le roman de Douminck en est un parfait exemple, cité d'ailleurs par Richard Saint-Gelais dans son ouvrage « Fiction transfuge ». Il s'agit d'une version contre-fictionnelle du roman de Flaubert, obligeant à considérer rétrospectivement Madame Bovary comme un récit possible, ce qui remet en cause son antériorité et l'autorité de Flaubert. On a vu que cette démarche constituait l'argument de la postface. Dans un monde possible, Emma Bovary est morte pour avoir ingéré de l'arsenic. Deux textes en proposent deux interprétations contradictoires, suicide Flaubert, ou assassinat Douminck. La conséquence de la contre-fiction est la déstabilisation des hiérarchies monde-texte. En effet, Douminck pratique ce que Saint-Gelais appelle la capture de Madame Bovary. Non pas la disparition, mais la capture. Son enquêteur Rémy parle en effet du scénario de Flaubert. Le roman en tant que tel et son auteur appartiennent à l'univers diégétique de Douminck, puisque dans le roman de Douminck, on voit Flaubert en tant que personnage assister aux obsèques de Madame Bovary. Cela signifie que dans le monde possible où est morte Madame Bovary, Emma Bovary, existe un texte intitulé « Madame Bovary », écrit par Gustave Flaubert, condisciple de Remy, l'enquêteur, et de Charles Bovary, au collège de Rouen. Et ce roman est présenté comme, le roman de Flaubert, est présenté comme falsifiant une réalité, puisqu'il prétend que Madame Bovary s'est suicidée, alors qu'en réalité, elle a été assassinée. Donc, le roman de Flaubert est présenté comme falsifiant une réalité qu'il a pourtant créée. C'est ainsi que le texte de Douminck transforme le monde de Madame Bovary. Avec Bello, ce flottement entre monde et texte est encore plus net, et ce pour deux raisons. On a déjà dit que l'enquêteur amnésique ne pouvait se fier qu'à son journal, et que son investigation portait par conséquent essentiellement sur un texte. Pendant le procès qui tient lieu de cette finale, Duneau reconnaît les paroles des témoins comme autant de passages de son propre journal. Je cite « Caillé sur les genoux », donc il est au procès, « Caillé sur les genoux, j'écoutais défiler mes dialogues avec délectation, tel un dramaturge qui, assistant à la générale d'une de ses pièces, redécouvre à mesure la subtilité de son texte. C'est donc le texte qui est à l'origine du monde. » À côté du journal, la principale référence de l'enquêteur est l'œuvre d'Agatha Christie. Lorsque l'enquêteur interroge son premier témoin, il évoque les fameuses règles de Van Dyne, ce qui lui vaut un « mais nous ne sommes pas dans un roman policier » qui ne semble pas tellement l'atteindre. Au début de son enquête, il établit l'inventaire des disparitions. C'est basique, hein, au début d'une enquête, on voit s'il y a des faits similaires. Sauf qu'il établit l'inventaire des disparitions, non pas dans la région, mais dans l'œuvre d'Agatha Christie. De même, il évoque les cas de médecins criminels qui sont à sa connaissance, et en fait, il cite des noms de personnages d'Agatha Christie, Shepard, Robert, Seidner et Gale. Et au procès, même les jurés lisent Agatha. On comprend qu'Achille Dunod, c'est le nom de l'enquêteur, Achille Dunod est un grand admirateur d'Hercule Poirot, et son amnésie peut justifier qu'il se réfère plutôt au texte qu'au monde qui lui échappe à chaque fois qu'il dort. Un des derniers chapitres s'achève sur la question « Mais bon sang, d'où va jaillir la lumière ?» Et le chapitre suivant commence par « D'Agatha, bien sûr ». Durant son enquête, Achille Dunod conseille le suspect, moins érudit que lui en la matière, dans ses lectures d'Agatha Christie. Donc, en guise d'enquête, ils échangent des commentaires sur l'œuvre d'Agatha Christie et évaluent les compétences de détective d'Hercule Poirot, comme s'il appartenait au même monde qu'eux. Leur controverse met en avant les qualités d'Ariane Oliver, un autre personnage de Christie qui est une sorte d'anti-Poirot, qui pratique l'intuition et qui écrit des romans policiers et qui mange des pommes. Et durant l'interrogatoire final, quand le suspect interroge l'enquêteur et qu'il l'incite à dire la vérité, le suspect incite l'enquêteur à s'appuyer sur la méthode d'Ariane pour énoncer les solutions de l'énigme. Et c'est dans une espèce de d'élan dont il n'arrive pas à savoir si c'est mémoire retrouvée ou imagination que l'enquêteur propose des solutions à l'énigme. Il s'appuie donc sur la fiction et l'inspiration ainsi que sur la disparition du savoir. Et il s'appuie là-dessus pour résoudre ou ne pas tout à fait résoudre l'énigme, puisqu'en fait, il propose plusieurs solutions. Ainsi, le monde que les enquêteurs observent est en fait un texte. Et leur manière de se situer presque sur le même plan que Poirot revient à abolir la frontière entre les deux univers, c'est-à-dire celle qui sépare la réalité diégétique et la fiction. C'est aussi ce que fait Bayard, mais un cran plus loin. Bayard se présente en effet comme un lecteur qui écrit son interprétation du roman d'Agatha Christie. Sa critique porte sur la scène finale et sa double valeur conclusive, fin du texte, fin de l'enquête. S'il proposait une meilleure fin au roman, il se mettrait en concurrence avec Agatha Christie. Mais puisqu'il propose une meilleure solution à l'énigme, à partir du moment où il prétend résoudre lui aussi l'énigme, le meurtre de Roger Ackroyd, il se pose en rival de Poirot et se place, d'un point de vue énonciatif, au même niveau que lui, alors qu'il appartient non pas au monde possible d'Hercule Poirot, mais à celui d'Agatha Christie. Bayard est donc métaleptique, puisqu'il passe ainsi d'un monde à l'autre, parce que selon les passages de son essai, l'affaire Ackroyd est traitée comme un monde sur lequel il enquête ou comme un texte à propos duquel il écrit un essai critique. Donc Bayard est métalectique parce qu'il se pose en critique tout en revendiquant clairement sa rivalité avec le détective, jamais avec l'auteur. Puisqu'il prétend faire mieux que Poirot, quel est l'objet commun qu'ils décryptent ? Ils s'attaquent tous deux à l'énigme du meurtre de Roger Ackroyd, ce qui explique les titres quasi identiques. Mais on sait bien que Poirot et Bayard ne lisent pas le même monde, puisqu'ils appartiennent à deux univers différents. Ils lisent néanmoins le même texte, le récit de l'enquête rédigé par Shepard. Je vous rappelle que dans le roman d'Agatha Christie, Shepard, narrateur, écrit son journal d'enquête, lui aussi. On pourrait donc dire que Bayard pratique une relecture du texte de Shepard, exactement comme Douminck l'a fait avec Madame Bovary. Dans ce cas, si le meurtre de Roger Ackroyd, Christie, et qui a tué Roger Ackroyd, Bayard, constituent deux interprétations écrites d'un même texte, on pourrait les considérer comme deux versions contre-fictionnelles, mais qui outrepassent les limites génériques entre roman et essai, et les limites textuelles, puisque l'interprétation de Poirot et le récit de Sheppard appartiennent en fait au même texte, celui d'Agatha Christie. Toutefois, la version de Bayard ne prétend pas remplacer celle d'Agatha Christie, mais s'y juxtaposer. On retrouve ici l'ouverture opérée par la coexistence des récits potentiels au moment de l'enquête, mais maintenue dans la scène finale. Ce qui signifie que Bayard, en défaisant la clôture imposée par la scène finale, en fait un récit potentiel parmi d'autres. Bayard s'installe donc à la frontière entre le métatexte et la transfiction. Il parle d'un livre, mais en intervenant dans la diégèse, il se place au même niveau que Poirot, alors qu'il n'est pas un personnage de fiction. Il outrepasse la triple clôture de l'enquête, du texte et du monde fictionnel, et joue ainsi avec la question qui taraude chaque critique : qui est vraiment l'auteur ? Ainsi, l'expansion de l'enquête, au-delà des limites du roman policier, provoque des incertitudes génériques, l'instabilité des frontières bornant mondes et textes, la mise en doute des fondements de la textualité. L'absence de résolution positive contribue elle aussi à ces flottements génériques, à ces jeux sur la présence-absence d'une clôture narrative. Telle est la vocation critique, métanarrative et transfictionnelle du récit d'enquête qui dépasse les limites du genre littéraire, dépasse celle de la fiction, assimile savoir et incertitude, tout en conservant cette dimension ludique. J'espère que j'ai réussi à la faire apparaître et que je vous ai donné envie de lire ces livres. Ils sont là, je peux vous les prêter. Donc cette dimension ludique et abstraite, propice aux expérimentations théoriques qui lui vient du roman d'énigmes. Je vous remercie.